Une vie, une œuvre, Chantal Akerman, 1950 Bruxelles, 2015 Paris. Bonjour. Quand elle a 20 ans, Chantal Akerman découvre à New York les expériences menées par Andy Warhol dans la Factory et tous les films réunis par Jonas Mekas. Elle y puisera, à côté de l'amour inconditionnel de sa mère, la force d'inventer une œuvre cinématographique délibérément hors norme. Elle se donne la mort le 5 octobre 2015, peu après le décès de sa mère Natalia en avril 2014. Jean-Philippe Cazier écrit dans Diacritique le 31 janvier 2016 « Toujours fuir égale vivre. Même la mort est dans ce cas une issue, une insoumission face à la mort. Fuir toujours, plutôt que quoi ? Chantal Akerman le dit, plutôt que le fascisme, les nazis, l'étouffement par l'argent, le capitalisme, le marché et ses lois mortelles qui sont maintenant les lois de la vie. Christine Le Serre signe avec Ghislaine David « Une vie, une œuvre » Chantal Akerman.
Est-ce que tu te souviens quand j'ai tourné Saut de ma ville, où est-ce que c'était ? Explique un peu où est-ce que c'était, où est-ce qu'on habitait ?
On habite avenue Mozart,
oui.
À Laeken, près du roi, à loin du palais de Royal. Et tu as fait cette toute seule avec un ami qui a fait la caméra.
La cuisine, elle ressemblait un peu à celle-là.
Oui, 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 c'était une grande cuisine. Tu cuisais des pâtes.
Oui, et tu te souviens, on avait mis des barres.
Oui, tu as mis des barres et puis tu as mis des papiers collants sur les portes et sur les fenêtres. Je me demandais qu'est-ce que tu faisais.
Mais le film est passé à la télévision.
Oui.
Et papa, quand il a vu le film,
il trouvait quand même que c'était incroyable. C'est vrai, tu sais. Il ne voulait pas qu'on vienne, tu sais. Il ne voulait pas que tu fasses ça. Mais bon, il te laissait quand même faire. Il avait peur pour toi, carrément.
Oui.
Dans quel monde tu t'es jeté ? Dans la gueule du loup ?
Chantal Akerman, intérieur, extérieur.
C'était récit Saut de ma ville, prise de vue René Fruchter, assistant Richard Bréchet, montage Geneviève Luciani. Prise de son Patrice, réalisation Chantal Akerman.
Ouais. C'était assez étonnant. Comme premier film, c'était le premier film.
C'était violent pour vous ?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je trouve ça chouette que l'immeuble saute et la ville avec.
Marilyn Watley.
C'est une jeune femme qui rentre chez... Enfin, une jeune fille qui rentre chez elle. Et qui, au lieu de ranger, elle met un certain désordre en voulant être ordonnée. Elle cire ses chaussures, mais elle met du cirage sur ses jambes. Elle fait cuire des spaghettis, mais je ne sais plus ce qui y arrive à ces pauvres spaghettis. Et finalement, elle va mettre du papier collant sur les fenêtres pour faire sauter tout l'appartement. Donc c'était assez étonnant. Je me souviens vraiment plus qu'est-ce que je faisais sur Saut de ma vie, parce que c'est 68, ça veut dire qu'on est encore, on est à peine sorti de l'école, et c'est tourné chez les parents de Chantal, donc les parents devaient être partis pour qu'on ait accès à l'appartement comme ça. Et puis c'était tourné très vite, je crois, en une ou deux journées.
Comment, selon vous, est venue l'idée de faire du cinéma ?
Peut-être ici, à la Cinémathèque. Certainement en voyant Pierrot le Fou qu'on a vu entre deux cours à l'heure de midi dans un petit cinéma dans le centre de Bruxelles. Oui, je dirais que ça a peut-être commencé comme ça, oui.
Après tout, je suis idiot. Merde, merde, elle m'en reporte.
Chantal Anna Ackermann, 1950, née à Bruxelles le 6 juin, 1953, rentre au jardin d'enfants, 1956, rentre à l'école primaire, 1962, rentre au lycée, 1966, sort du lycée au milieu de l'année, 1967, entre à l'INSAS, en sort trois mois après, 1968, novembre 68, tourne saute ma ville, puis va vivre à Paris, etc.
Oui, non, on était des filles qui avions envie de s'amuser, qui avaient envie de voir le monde, qui avions envie de voir des films, parce que si on se retrouve à la Cinémathèque, c'est pas par hasard. La Cinémathèque, c'était notre école, on venait, il y avait trois séances par jour, on venait de 18h à 22h, parfois on s'endormait pendant les films, mais c'est là qu'on a tout vu, et qu'on a aimé le cinéma.
Est-ce qu'elle était paresseuse ?
Oui, elle disait tout le temps qu'elle était paresseuse. Mais c'était pas vrai, ça c'est sûr. Mais bon, il y a toutes ces histoires dans Lettres d'un cinéaste où elle est au lit. Faire du cinéma, ça passe par le lit en tout cas. Oui.
Et je suis partie. Une toute petite chambre blanche, au ras du sol, étroite comme un couloir, où je reste immobile, attentive et couchée sur mon matelas.
Non, mais elle n'était pas paresseuse, vraiment pas.
Et dans ce portrait de jeune fille, on voit aussi poindre...
J'ai peint les meubles en bleu le premier jour.
Ce qu'on peut appeler un désespoir.
Ouais, mais moi je suis pas...
Je les ai repeints en vert le deuxième jour.
Je suis toujours... comment dire, agacée qu'on dise qu'elle était désespérée, quoi. Parce que bien sûr, saute ma ville pour plein de gens, à la lecture de ce qui s'est passé, semble une espèce de prémonition. Mais moi qui ai passé plein de temps avec elle, c'était quelqu'un d'extrêmement joyeux, drôle. Bon, voilà, peut-être un peu extrême comme on est quand on est adolescent aussi.
Et le matelas, je l'ai changé de place le cinquième jour.
Ce qui est très très frappant, c'est son sens extraordinairement incarné de l'espace. Le cinéma montre toujours l'espace, c'est pas Chantal Ackermann qui l'a dit, c'est Stanley Brakhage, d'un point de vue de propriétaire. Ça nous montre l'espace comme si on le possédait.
Jacques Aumont.
Et je crois que chez Ackermann, il y a quelque chose justement qui va contre ça, parce qu'elle ne le possède pas, elle l'habite. Elle montre... Alors sa chambre, bien entendu, dans la chambre, ou bien des chambres qu'elle a habitées dans Je tuis l'aile, ou qu'elle aurait pu habiter dans J'ai faim, j'ai froid, où les deux filles vont d'une chambre prêtée à une autre chambre prêtée, un peu au hasard, mais où là aussi on sent très très bien un rapport extraordinairement simple et direct à un espace d'habitation. C'est très frappant dans ce petit film, ces deux filles qui sont en pleine errance de fugue d'adolescentes. Quand elles entrent dans une chambre, elles y sont tout de suite des habitantes. Et ça, c'est ackermannien à 100%. Ou bien, dans ce film qui s'appelle Tantôt la paresse, tantôt Portrait d'une paresseuse, où Chantal se montre au lit, se montre faisant son petit déjeuner, qui n'est pas un petit déjeuner, mais un cocktail de vitamines, se montre écoutant Sonia Vidéra-Terton qui répète un morceau très difficile. Là aussi, on ne voit pas, on n'a pas la vue de propriétaire sur l'appartement, on a des vues d'habitants. Je mange, je me lève, je paresse, je suis avec mon ami, que des affects. Habiter, c'est vraiment une intériorité, et pas par jeu de mots. C'est pas parce qu'on est à l'intérieur qu'on habite, c'est parce que l'intérieur est en vous aussi.
Aujourd'hui c'est samedi, et je tourne le film sur la paresse. Paresseuse, lève-toi, paresseuse, habille-toi, paresseuse, lave-toi. C'est toujours ça de gagner.
Mais c'est vrai qu'on peut dire que les films de Chantal forment à la fois une géographie, une chronologie de sa vie, puisque quand on passe de Saute ma ville, c'est Bruxelles, Toute une nuit, c'est Bruxelles, Portrait d'une jeune fille, c'est encore Bruxelles, Demain, on déménage, on l'a tourné à Bruxelles, Nuit et jour, on l'a tourné à Bruxelles, donc ça se tient tout ça.
Ma mère m'a dit, il faut d'abord que tu passes du lait sur ton visage, ensuite du tonique, et puis seulement de la crème, et cela matin et soir, sinon à 40 ans, tu auras déjà l'air vieille. Il y a des jours où je le fais.
Mais la première chose que j'ai pensé quand on m'a offert d'être directeur de la Cinémathèque à Bruxelles, a été de dire, ah, c'est la Cinémathèque où il y a les films de Chantal Akerman. J'étais nerveux comme un petit gamin qui rencontre un géant de l'histoire du cinéma.
C'est une cinéaste belge, vous dites.
C'est une cinéaste, point. C'est une cinéaste qui a changé l'histoire du cinéma. Il se fait qu'elle a fait des films aux États-Unis, qu'elle a fait des films en France et qu'elle a fait des films en Belgique. Je crois personnellement qu'il soit profondément belge.
Nicolas Mazzanti.
Parce qu'il y a tellement de son histoire personnelle et de l'histoire de la famille et toutes les histoires qui viennent avec elle et qui se cristallisent en Belgique, à Bruxelles, qu'elle est sans doute une cinéaste bruxelloise. Et c'est aussi une cinéaste de cette Europe en mouvement qui bouge d'un pays à l'autre et qui aujourd'hui, me semble, on veut oublier. Chacun dans son petit coin, personne ne bouge. Et on oublie que entre les années 30 et l'après-guerre, l'Europe a été fondée par les mouvements de gens.
Elle venait chez nous parce qu'elle était fort débrouillarde. Elle travaillait toujours, elle voulait toujours gagner l'argent. Et alors, quand elle ne travaillait pas loin, elle pouvait travailler chez un photographe ou je ne sais, n'importe. Alors, elle venait nous rendre visite, manger avec nous. Parfois, elle dormait même ici, elle ne voulait même pas aller chez ses parents. Elle restait ici parfois dormir de temps en temps.
Tante Tocha.
Et on parlait, il y avait quoi. Elle amenait une amie avec elle. Souvent, on discutait. De nous, oui, elle demandait toujours comment ça a été en Pologne, et comment c'était sa grand-mère. Sa grand-mère qui était ma sœur aînée, qui est... Enfin... Elle a été déportée. Et moi, j'étais aussi déportée, mais je suis revenue avec ma sœur, Nelly, la maman de Chantal.
Ma mère, c'est la personne qui m'a donné le plus de force en moi-même, parce que c'est quelqu'un qui a toujours cru en moi et qui m'a toujours aimée sans réticence, sans jugement. Et je pense vraiment que c'est de la force de son amour que je puise moi-même la force pour faire tout ce que je fais.
Oh, ihr kleine Lichtele, ihr der Zeltgeschichtele, Maselech und zu.
Le film s'appelle « Dis-moi ». Dans ce film, Chantal parle à sa mère. Mais on ne voit pas sa mère, on l'entend. Et par ailleurs, elle va s'entretenir avec des grands-mères, pas la sienne, des grands-mères, qui sont toutes bien sûr des grands-mères juives, qui ont toutes eu dans leur vie affaire personnellement à la déportation et à la Shoah. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le dispositif est d'une légèreté totale tout à coup par rapport à ce film sur dans un des nombreux films quand même dans lesquels Akerman parle de sa judaïté, de son rapport obsessionnel à la destruction des juifs d'Europe. Mais là, elle invente un dispositif pour que ça soit autre, que ça soit pas la plainte, pour que ça soit pas l'indignation, que ça soit aucun des affects habituels ou des affects convenus, je dirais.
Et vous savez, la première chanson est de Bar Kokhba, vous savez, c'est des bougies, la fête des bougies.
Le dispositif de 10 mois consiste en ce qu'on filme des grands-mères juives ayant souffert de la Shoah dans leur famille propre. On les filme toutes de la même façon. Chantal frappe à une porte, on lui ouvre, elle entre, et on a ensuite en plan frontal la femme qui raconte sa vie avec parfois, selon de légères variations d'un épisode, si je puis dire, à l'autre, des plans de Chantal écoutant et plus rarement ponctuant la conversation, intervenant. C'est très rigoureusement la même chose qui est reprise tout au long du film. C'est en ça que c'est un dispositif. Celui-là est extrêmement simple, c'est l'entretien. Il y a Chantal qui se promène dans les rues d'une interview à l'autre, qui monte l'escalier de l'immeuble, qui va frapper, à chaque fois c'est légèrement varié, c'est pas toujours tout à fait la même chose. C'est pas de l'expérience sèche, si on peut le dire comme ça, mais c'est incarné. Mais de toute façon, on revient toujours à ça à propos d'Ackerman. Hein. J'allais dire, elle ne sait pas faire autrement, mais pour moi c'est un compliment.
Tout le monde est venu pour dire le dernier au revoir à ma grand-mère. Ça, je vais jamais oublier de ma vie. Ça, c'était des grand-mères. Écoute, moi je parle et parle tout le temps et tu ne manges pas. Mange quelque chose. Et après, ta mère ou ta grand-mère, tu n'as pas connu. Et ta mère, tu connais des chansons. Qu'est-ce que ta mère te chante?
Ma mère, elle ne me chantait pas de chansons.
Elle vivait dans un désordre assez impressionnant. Mais en même temps, dans ce désordre, elle écrivait, elle faisait plein de choses. Et quand les rares fois elle faisait à manger, elle inventait toujours des choses. J'ai un souvenir comme ça d'un poulet à la banane et à la menthe absolument inouï que je lui ai demandé plusieurs fois de refaire et qu'elle n'a jamais pu refaire.
Elle parlait d'héroïsme du quotidien. Pour elle, mais c'était quelque chose de... C'était une bataille presque.
Bien sûr, oui. Les amis essayaient de lui donner des choses un peu pour l'aider à s'organiser. Mais c'était pas simple, effectivement.
Là où je me suis vraiment sentie le plus chez moi, c'est à New York. D'abord, parce que bon... moi, je suis juive. Et la Belgique, je me sens à côté. J'ai vraiment un sentiment un peu schizophrénique. Et par rapport à la Belgique, et par rapport à la France. Et c'est la première fois que ce sentiment a disparu quand j'étais à New York. Il faut dire que c'est aussi une grande ville juive. Et tous ces rythmes de mon enfance, et tout ce bavardage, et, enfin, cette façon de parler... Même dans les milieux complètement artistiques, et la même que celle de mes parents qui sont dans un milieu acculturel, qui sont dans, enfin, c'est très très frappant et ça m'a vraiment bouleversée aussi. Et aussi, New York, c'est la ville où tous les fous sont mis ensemble, donc un fou de plus, un fou de moins, c'est très agréable.
Je suis allée la voir là-bas et on a traversé les États-Unis ensemble dans un bus invraisemblable. Et New York, à l'époque, c'était une ville assez incroyable. C'était pas comme maintenant, c'était une ville délabrée. Mais surtout pour elle, c'était ne pas être ici, c'était être ailleurs, c'était parler une autre langue. C'est toujours plus agréable d'être ailleurs, où on ne vous connaît pas, où on vous juge autrement, où on n'a pas de préjugés par rapport à d'où vous venez, qui vous êtes. Donc c'était très excitant d'être là-bas.
Tout était fort, tout s'imprimait comme matériel, et qui était un matériel qui continue à me poursuivre. Je ne me suis plus jamais sentie aussi libre après. Mais je sais ce que c'est, je l'ai ressenti. Et ça, c'est important. C'est important de sentir des choses très précises. Et ces lignes, mais que je retrouvais de Bruxelles, bizarrement. Et c'est vrai que de la manière dont j'ai filmé New York, en me mettant en effet en face, et parce qu'il y avait toujours des lignes pour faire cadre, eh bien, c'est comme ça qu'après j'ai filmé l'Arizona en face, ou que j'ai filmé l'Europe de l'Est, ou Jeanne Dielman. Ça a été quelque chose qui m'a faite en tant que cinéaste, je peux dire, oui.
Je l'ai filmé dans New York, je l'ai filmé dans un diner, et puis je l'ai filmé dans une chambre d'hôtel, donc pour une conversation sur les films qu'elle avait aussi en partie tournés à New York, et notamment pour moi, News from Home, qui a été le premier film que j'ai vu de Chantal et qui m'a ébloui par sa simplicité. Et en même temps, je trouvais qu'il racontait tellement de choses. De nouveau, déjà, il racontait ça.
Marianne Lambert.
Il racontait le va-et-vient, il racontait le contraste entre la petite vie étroite bruxelloise qu'elle quittait et l'immensité de la ville de New York où tout était possible, avec les lettres de sa mère en voix off. Il y a un sens du cadre extrêmement précis. Je pense que c'était une manière de trouver une forme d'équilibre personnel à l'intérieur d'un cadre. Cette manière de cadrer des plans symétriques, des appuis sur des lignes, une manière un peu graphique de composer une image, c'est extrêmement présent. C'est comme lorsque Claire Atherton dit, à un certain moment, on voit Chantal qui cadre toute seule. Elle a déposé la caméra sur la table bouge, et puis tout à coup elle dit, et tout à coup il y a un plan. Et elle dit, on ne sait pas d'où ça vient.
Ma très chère petite fille, je suis on ne peut plus heureuse d'avoir de tes bonnes nouvelles et si vite. Tu dois continuer, ça me fait énormément de bien de te lire. Je suis contente que tu sois mieux, car je me faisais du souci. Dieu merci, ça va mieux. Papa est content quand je lui lis tes lettres. Il espère que tu deviendras célèbre. Ma chérie, tu sais qu'on t'en veut pas d'être partie sans rien nous dire, mais tu dois nous tenir au courant. Nous t'aimons et pensons à toi. J'ai bien reçu ta lettre et je m'empresse de te répondre. Je suis bien contente que tu aies reçu les bonnes lettres. Enfin, ma chérie, je te donne une nouvelle.
Claire Atherton, qu'est-ce que racontent les films de Chantal Ackerman?
Pour moi, il parle de tout. Il parle de notre. Il parle de notre façon d'être au monde, de l'histoire. De l'histoire de chacun qui rejoint l'histoire avec un grand H. Ils ouvrent, ils questionnent. Ils nous mettent en face de nous-mêmes. Et c'est des films libres. C'est des films vers lesquels il faut aller.
Mais qu'est-ce que tu penses que ce film disait par rapport aux femmes?
Par rapport aux femmes.
Redis ma question à chaque fois, tu sais.
Oui, ce que tu demandes par rapport aux femmes. Eh bien, écoute, les femmes étaient des femmes au foyer. Dans Jean Dielman, qu'est-ce qu'on voit? La femme qui fait son ménage, et qui nettoie, et qui fait la cuisine. Et tu t'es référée un peu à mes tantes. La façon comme elle faisait la cuisine. Et je ne me rendais pas compte que tu as remarqué tout ça. Comme tante Tosha, comme elle faisait ses boulettes et ce truc.
Oui.
Et que tu as pris le temps de ce qu'il fallait pour faire ça. Et ça, c'était tout à fait nouveau. Il n'y a personne qui avait fait ça avant toi. Et c'est ça que le film a duré 3 heures. Tu as osé quand même pour ton premier long métrage de faire un film de 3 heures qui manquait pas d'air.
Qu'est-ce que vous avez ressenti, Nicolas Mazzanti, face à ce film Jeanne Dielman?
Jeanne Dielman, c'est un film. Ça, c'est magnifique. Où chaque plan est construit avec une précision impressionnante et avec une structure qui. Tout d'un coup, pendant 3h et 20 minutes, détruit 3/4 de l'histoire du cinéma. Et puis c'est un film déstabilisant.
Qu'est-ce qui déstabilise?
Tout.
C'est le contraire de Hitchcock. Hitchcock disait le cinéma est un, it's a pie, it's une tarte dans laquelle on élimine toutes les parties qui ne sont pas intéressantes. Jean Dillman est un film qui montre seulement les parties qui, ne sont, qui en théorie, seront pas intéressantes.
C'est-à-dire comment on épluche des pommes de terre,
oui, absolument.
Comment on essuie la
absolument,
table.
Absolument, absolument. Et donc c'est un film inconcevable. Le mot que j'ai pour Jean Dillman est mais. J'avoue aussi pour Saute ma ville et autres films de Chantal Akerman, qui sont des films inconcevables. C'est-à-dire que ce sont des films qu'on n'aurait pas pu imaginer si on se promenait dans les rues d'une ville en Europe, aux États-Unis. On ne peut pas imaginer demain un film comme ça sort dans les salles. Ça, c'est inconcevable. Parce que c'est un tournant. Et donc, on ne voit pas les tournants. Tout d'un coup, Griffith arrive et il y a la naissance du montage, de la narration cinématographique. Tout d'un coup, Chantal Akerman sort du néant, en plus de Bruxelles. Sort de Bruxelles. Bon, à l'époque, il y avait très peu de cinéma belge. Je ne sais pas que tout, on s'attend peut-être à Paris, à Rome, on s'attend à Los Angeles. Non, à Bruxelles, sort un cinéaste qui change tout.
1975, lors de la sortie du film Jeanne Dillman à la télévision.
Delphine Seyrig, qu'est-ce qui vous a, j'allais dire, séduit? Le mot séduction n'est peut-être pas le bon terme.
C'est pas celui
c'est pas qui convient. Mais qu'est-ce qui vous a motivé pour accepter un rôle où vous êtes totalement, comment dirais-je, banalisé, déstarisé et rendu à la quotidienneté?
C'est la première fois pour moi qu'on traite ce sujet, voilà. Il est très rare qu'on vous propose un film dont le sujet n'a jamais été traité avant. Le sujet étant la femme d'intérieur, sa vie quand elle est chez elle. Et je trouve très intéressant que pour une fois, on commence à voir ça. C'est tout à fait passionnant et déroutant.
Oui, mais enfin, dans la mesure où on peut recevoir ce film comme un film de défense de la femme. Dans
tout. Mais je ne crois pas que c'est. Tu trouves que ça fait ça pour défendre les femmes?
Ce n'est pas un film à thèse. C'est pas
non,
un
j'ai pas dit
film
que c'est un film à thèse.
Moi, quand Chantal m'en a parlé, j'avais l'impression qu'elle montrait ce qu'elle avait vu faire toute sa vie par les femmes autour d'elle.
C'est-à-dire
et c'était ni pour prendre la défense, ni pour attaquer. C'était vraiment un film qui l'émouvait.
Oui, mais c'est un film.
C'est-à-dire que. Un homme n'aurait pas fait ça, je pense. Un homme, parce que dès son enfance, on lui apprend que les vraies valeurs sont pas là, qu'on ne fait pas de l'art avec une femme qui fait la vaisselle. Et moi, j'ai pas pris le contre-pied consciemment, j'ai fait ce qui m'intéressait. Et ça donne le résultat de ce film.
L'autre chose sur laquelle s'interrogent les gens, c'est pourquoi le crime à la fin de Jeanne Dillman. C'est très curieux, les gens sont divisés en deux. On en a entendu de toutes sortes, vous et moi, qui disaient « je ne suis pas d'accord avec le crime, je suis d'accord avec le crime ». Le crime est la fin utile, nécessaire et obligatoire du film, ou au contraire, je le trouve artificiel, plaqué. Oui. Pourquoi ?
Mais il y a une chose...
J'ajoute, excusez-moi, pour qu'on comprenne, qu'il s'agit du meurtre du dernier homme, du dernier client de ce jour-là, par Jeanne Dillman, Delphine Seyrig, ce client étant un client, parce que c'est une prostituée, une heure par jour.
Oui. Eh bien, je me sens capable d'un meurtre qui n'est pas dirigé contre une personne ou contre l'autre, qui est simplement un acte physique, une réponse immédiate pour moi, physique, à ce que j'ai ressenti toute la journée. La violence qu'on vit dans la rue tous les jours, est aussi une violence qui a un rapport avec ça. On en a trop vu aujourd'hui. Et on fait un geste insensé.
Dominique Pagny.
Incontestablement, par exemple, Jeanne Dillman... Dans son appartement, on entendait éplucher ses pommes de terre dans des plans fixes, vraiment, où tout ne changeant que les lumières qui proviennent de l'extérieur, la tombée du jour. Il y a une audace, un acte inouï, inédit, d'avoir osé filmer un temps qui est un temps contemporain, qui est un temps d'errance, qui est un temps d'oubli, qui est un temps d'ennui. C'est une sorte de fleuve qui met le spectateur dans une attente, dans une disposition de son corps et de son esprit pour vivre quelque chose d'interminable.
Chantal ne pouvait pas filmer autrement. Dans le cadrage frontal, la distance, il y a un espace qui se crée. Et du coup, elle amène le spectateur à venir vers ce qu'elle filme et à faire son propre trajet. Chantal voulait toujours que le spectateur travaille. Et oui, elle voulait qu'on soit actif. En fait, je pense que pour que le regard soit possible, il faut une distance. Chantal l'a créé intuitivement dans sa façon de filmer. Chantal n'est pas quelqu'un qui va montrer. Elle filme quand il y a un cadre, tout à coup, elle sent qu'il peut y avoir un film. Donc, dans sa façon de cadrer, il y a déjà cette distance. Dans la façon de Chantal aussi de s'intéresser aux petites choses, aux petits gestes, au quotidien, et de ne pas aborder les grandes choses de front, parce que les grandes choses émanent des petits gestes, des petits riens. D'ailleurs, je ne sais plus, elle disait que son père disait qu'il n'y avait rien à dire, et sa mère disait qu'il n'y avait rien à ressasser, ou c'est l'inverse, je ne me souviens pas. Et elle disait que c'était sur ce rien qu'elle travaillait, sur le rien qui justement ouvre vers le tout. Chantal n'a jamais, dans aucun de ses films, traité d'un sujet. Et c'est en montrant, j'aime pas trop ce mot montrer, mais en filmant des petits gestes, des situations apparemment banales, qu'elle atteignait cette universalité. Et qu'elle l'atteint toujours.
Je pense que faire sentir le temps qui passe est une des choses qui... le plus important dans le cinéma, que ce soit du cinéma rapide ou lent, finalement, ça se rejoint. Bon, moi, j'ai fait souvent des films entre guillemets lents, mais où surtout, il y a une place pour le spectateur, où il n'est pas avalé par le film. C'est presque éthique comme position. Le cinéaste. La, 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 la.
Moi, il y a beaucoup de films que j'aime. Moi, j'aime Toute une nuit qu'on a tourné justement à Bruxelles. Surtout Toute une nuit, quand on le revoit, c'est comme un document d'archives sur la géographie de la ville qui a changé. C'est aussi quelque chose sur les amis qui ont joué dans le film et qui sont plus là. C'est plein de choses. Une série de fragments, de moments intenses, amoureux, qui se passent dans une seule nuit à Bruxelles et qu'on a tourné en plus... dans l'appartement où je vivais, dans la maison où je vivais, enfin bon, et qui a occasionné plein de désordres aussi dans la vie. En tout cas, dans la nuit, c'est le moment où les femmes quittent leur vieux mari, c'est le moment où les enfants font des fugues, c'est le moment où les amoureux déambulent, où les sentiments dans cette chaleur... s'exaspère et voilà.
On pense à une danse.
Oui, c'est plein de moments chorégraphiques parce qu'il y a peu de paroles dans le film. Donc les gens se regardent dans un café puis se jettent dans les bras l'un de l'autre. Et c'est un film qui a dû parler à beaucoup de gens parce qu'il était distribué en Allemagne où il est devenu un petit film culte. Il a parlé à beaucoup de gens dans plein d'endroits différents.
Caroline Champetier.
C'était vraiment comique, puisqu'on habitait, en fait on avait quasiment squatté un immeuble qui était celui de la productrice, Marilyn Batelet. On tournait dans son appartement, celui de sa sœur, et quasiment toutes les pièces de l'immeuble de la Halle au Blé sont faites dans l'appartement de Marilyn, qui était repeinte d'un jour à l'autre de façon différente. Et on avait squatté la rue des parents de Chantal, leur petite maison à Bruxelles, et puis les voisins. Et ça, c'est toute la série des escaliers, des portes blanches, des attentes devant les portes, etc. Et je le pense vraiment, je pense qu'elle a un savoir du corps qui est très particulier pour un cinéaste. Quand on voit Sotmaville, on comprend tout de suite sa façon qu'elle a de, à la fois de comprendre son propre corps, de savoir en sortir quelque chose de burlesque et de dramatique à la fois, et sans faire de comparaison ridicule, mais comme les grands burlesques, comme Chaplin, comme Keaton. Elle sait ce que le corps donne dans une image, quoi. Elle sait ce qu'est le cœur de l'image en tant que présence physique du corps. Et je crois que la façon dont elle dirigeait les acteurs, c'était extrêmement physique. Ce qui m'étonne absolument quand je revois le film, c'est l'élan. L'élan des corps les uns vers les autres, et cet élan à la fois dans la mise en scène et dans la photographie, dans le visuel du film, qui fait qu'on se met devant les premiers plans et on reste, alors que la narration n'est pas du tout une narration continue, quoi. Et on est là, comme saisi, oui, dans l'élan du film, et emmené d'un plan vers un autre. Il n'y a finalement aucun récit, enfin aucune. Il y a une dramaturgie, mais il n'y a pas de fiction. Ce ne sont que des petits élans de fiction qui vont d'une séquence à une autre, d'un plan à un autre, et le film tient comme ça, comme une espèce de collier, oui, où l'élan d'un plan à un autre prend le spectateur du début à la fin.
Je me rendais compte que j'étais avec quelqu'un qui m'emmenait vers quelque chose que je savais qui était pour moi.
Aurore Clément.
Je cherchais quelque chose avec moi-même. Je ne sais pas quoi, parce que j'étais toute jeune. Et finalement, j'ai trouvé cette voie en rencontrant Chantal, en travaillant avec Chantal. Ça m'a tenue, ça m'a donné un corps. Mais quand Chantal, elle dit le bruit du talon, la hauteur du talon et la largeur du talon qui correspondaient à un bruit très précis, les claquements de talons, des bruits de porte, des bruits de garde, etc. C'est Chantal.
La musique est si belle.
Perdonnera. E solo tu.
Ne peux pas se passer de moi, il plus plus.
L'amour est ça.
Il m'arrive même de l'oublier.
Anche per noi.
Cette musique est si belle.
C'est la fortuna.
Si chaud ici.
C'est parce que Chantal, c'est quelqu'un qui est vraiment perméable à tout ce qui fut lors de son temps de vie, en pointe. C'est chez Pina Bausch, les gens qui, tout à coup, habillés les uns en costard, on les croirait partant vers une soirée à Champagne, et les femmes habillées avec des talons impossibles à se mouvoir avec de tels talons sur une scène. Pourtant, elles se mettent à courir, ils se jettent les uns sur les autres, rien que pour se dire que c'est impossible de s'aimer. Chantal, c'est ça. Ce qui est inédit chez elle aussi, c'est de s'être risquée à faire une telle épreuve de son corps, dans Sotmaville bien sûr, mais surtout dans un film comme par exemple « Je tue l'aile » où c'est elle au centre de la scène, où elle se met à l'épreuve d'abord du temps qui coule sur son corps immobile, mais aussi en se prêtant et en se filmant en train de faire un certain nombre de performances physiques. Toutes les grandes scènes d'amour entre ces deux femmes qui relèvent pleinement tout ce qu'on a eu coutume d'appeler le body art. Hein. Elles préfiguraient ce qui serait possible à voir enfin à l'écran, une scène du type de celle que Keshish fit dans La vie d'Adèle entre ces deux femmes. Chantal, c'est ça son cinéma, hein.
Elle arrive au premier étage du duplex, alors que le piano s'introduit lentement dans l'appartement, s'élance dans les escaliers du duplex, donc vers le deuxième
Mais j'aime
étage,
beaucoup « Demain on déménage ». Parce que là, je trouve aussi il y a quelque chose... Vraiment pour moi de Chantalien qui est cette balance entre le rire, le drame, cette mère fantaisiste qui a envie de s'amuser et de danser, sa fille un peu aussi écrasée par sa mère qui écrit des romans érotiques pour s'en sortir et aussi ce défilé invraisemblable des candidats à acheter cet appartement et qui racontent leur vie. Avec une espèce de spontanéité, de drôlerie, toujours un peu triste.
Au fond, c'est vraiment toujours entre tragédie et comédie.
Oui, ça c'est sûr. Mais hier, je suis allée écouter la lecture de son dernier livre, « Ma mère rit ». Et là aussi, j'étais tout à fait étonnée. C'était très drôle sur des choses terribles. Je suis pas sûre que c'est si drôle, mais les gens riaient.
J'aime beaucoup Lubitsch, j'aime beaucoup Cukor et les metteurs en scène de comédie américaines, mais qui viennent d'Europe de l'Est, qui se sont installés à New York parce qu'ils se sont enfuis et qui ont amené souvent l'esprit juif mélangé avec Hollywood. Et ça, c'est les plus belles comédies, je trouve.
Well, sir, do you know whether to shit is a physical or an intellectual act?
Intellectual, of course.
Intellectual? Why?
Because if it was physical, we would hire someone to do it in our place.
What's bothering you?
Nothing. Nothing.
Histoire d'Amérique, c'est un film d'une heure et demie qui est repris d'histoires, de textes d'Isaac Bashevis Singer, grand écrivain d'origine polonaise, qui écrivait parfois en yiddish, dans lequel on voit des acteurs. Soit ils sont face à la caméra et ils racontent une histoire qui peut être comique, qui peut être tragique, qui peut être mélodramatique, qui peut être douloureuse, drôle, histoire de mort, de résurrection, des histoires très typiquement juives, bien sûr, puisqu'il s'agit de parler de l'émigration des juifs polonais en Amérique et de la façon dont ils se sentent à la fois juifs, polonais et américains. Il y a donc ces plans-là. Et puis, il y a quelques petits intermèdes qui sont des intermèdes comiques où deux personnages, généralement, racontent des blagues juives.
On arrivait dans ce terrain vague où on avait reconstitué un café.
Marilyn Watley.
Un restaurant, plutôt. Un terrain vague où il y avait des carcasses de voitures, des chiens morts. Enfin, c'était absolument incroyable. Et cet endroit était habité par des juifs hassidiques et qui faisaient tricoter des portoricains dans des immenses... en gare, donc c'était déjà ça, c'était quelque chose d'incroyable. Et pour le film, on avait, grâce à une directrice de casting, retrouvé plein de vieux acteurs juifs. Et moi, j'étais costumière, en fait. Et avec Chantal, je cherchais les costumes dans les armoires de ces vieux acteurs. Donc c'était absolument étonnant de rencontrer ces gens qui avaient toute une histoire dans le théâtre yiddish, de trouver aussi, il y avait Judith Malina qui tourne dans le film. Et là aussi, c'est des moments de tristesse, de désespoir, mais aussi de drôlerie, d'histoire de, évidemment d'exil, d'histoire de gens qui se retrouvent, d'histoire de gens qui se retrouvent jamais. Donc c'est un très beau film.
Je montre un monde mort, mais je le montre. Donc c'est une sorte de un peu paradoxal, mais je le montre en tant que quelque chose revenante comme ça, comme des trucs qui peuvent revenir, des trucs refoulés qui peuvent réapparaître au coin d'un bois, mais qui sont quand même bon. Ça ne pourra plus jamais exister comme ça, c'est fini. Mais c'est vrai que c'est un truc de renouer des fils comme ça. Essayer de renouer des fils, oui. Mais bon, c'est un essai. C'est le truc. La conclusion, c'est que c'est. Ils sont pas vraiment renouables. Pas vraiment renouables. Il y a eu trop qui s'est passé pour que ce soit vraiment renouable, je crois. On peut retransmettre des bribes de trucs. On peut renouer avec des bribes de trucs, mais.
Écrire un film avant même de le connaître. Écrire pour fermer. Écrire la lettre au père de Cajimèche sur la Vistule. J'ai été, puis j'ai écrit, sans trop comprendre. Un regard de passage, ébloui par l'été, traversé par l'Allemagne de l'Est, puis par la Pologne. En chemin, au pas de course, Tarnouf devient ma mère, pas vue, pas regardée. À la frontière, l'été s'est éteint pour laisser place à l'automne. Un automne sourd et blanc, recouvert par une masse de brouillard. Dans la campagne, des hommes et des femmes presque couchés sur la terre noire d'Ukraine, se confondant avec elle, ramassent des betteraves. Non loin d'eux, la route défoncée par le passage continuel de camions déglingués, dont les gaz viennent couvrir terre et visage de fumée noire. Et c'est l'hiver blanc, et le ciel immense, et quelques silhouettes qui marchent vers Moscou, où le film se resserrera. Laissera sans doute percevoir quelque chose de ce monde déboussolé, avec cette impression d'après-guerre où chaque jour passé semble être une victoire. Cela peut sembler terrible et sans poids, mais au milieu de tout cela, je montrerai des visages qui, dès qu'ils sont isolés de la masse, expriment quelque chose d'encore intouché et souvent le contraire de cette uniformité qui parfois vous frappe dans la foule, en marche ou arrêtée. Au contraire de notre uniformité à nous aussi. Sans faire trop de sentiments, je dirais qu'il y a encore des visages qui se donnent et effacent par moments le sentiment de perte, de monde au bord du gouffre, qui parfois vous étreint lorsque vous traversez l'Est comme je viens de le faire. Faut toujours écrire quand on veut faire un film, alors qu'on ne sait rien du film qu'on veut faire. Pourtant, on en sait tout déjà, mais même ça, on ne le sait pas. Heureusement, sans doute. C'est seulement confronté au fer qu'il se révélera, à tâtons, dans le bredouillement, l'hésitation aveugle et claudiquante, parfois dans un éclair d'évidence. Et c'est petit à petit que l'on se rend compte que c'est toujours la même chose qui se révèle, un peu comme la scène primitive. Et la scène primitive pour moi, bien que je m'en défende et que j'enrage à la fin, je dois me rendre à l'évidence, c'est, loin derrière, ou toujours devant, de vieilles images à peine recouvertes par d'autres, plus lumineuses et même radieuses. De vieilles images d'évacuation, de marches dans la neige avec des paquets vers un lieu inconnu, de visages et de corps placés l'un à côté de l'autre, de visages qui vacillent entre la vie forte et la possibilité d'une mort qui viendrait les frapper, sans qu'ils aient rien demandé. Et c'est toujours comme ça. Hier, aujourd'hui et demain, il y a eu, il y aura, il y a en ce moment même des gens que l'histoire, qui n'a même plus de hache, que l'histoire vient frapper et qui attendent là, parqués en tas, pour être tués, frappés ou affamés, ou qui marchent sans savoir où ils vont, en groupe ou isolés. Il n'y a rien à faire, c'est obsédant et ça m'obsède. Malgré le violoncelle, malgré le cinéma. Le film fini, je me suis dit, c'était donc ça.
encore une fois ça.
Je me souviens quand on a fait Dest, on a roulé en voiture, on a fait Bruxelles-Odessa en voiture. Donc parfois pendant plusieurs jours on ne tournait pas, on était dans une espèce de camionnette confortable, mais quand même une camionnette. Et puis tout à coup elle disait « on descend ». Et là elle faisait un plan. Et ça c'était assez impressionnant.
Elle avait vu quelque chose.
Oui, voilà. Que moi, j'avais pas vu.
Habituellement, avec Chantal, on commence par regarder les images, on fait peu de commentaires.
Claire Atherton.
En tout cas, des commentaires très simples. On dit c'est beau, c'est fort. On conceptualise pas du tout, on ne dit pas du tout ce qu'on cherche à montrer. C'est comme si les images nous parlaient. Parce que le montage, c'est travailler aussi avec le vide et donc prendre des choses et les mettre les unes à côté des autres, les faire résonner. On parle souvent du rythme du montage. Je pense que le rythme, c'est une organisation de résonance. Le montage, c'est comme une espèce de composition. Composition au sens large, que ce soit avec des sons, des matières vivantes, des matières visuelles, des matières plastiques.
Dest, ce n'est pas seulement, n'est pas un documentaire, c'est un long voyage.
Nicolas Mazzanti.
Géopsychologique, je dirais, à travers une histoire et un monde qui n'existe plus, ou bien qui est en train de disparaître, ou bien qui est en train de ne pas disparaître parce qu'il sera toujours là, d'une certaine façon. Qui est l'histoire des pays de l'Est, ce parcours à l'envers de tout un. Plusieurs générations d'Européens. Donc c'est ça, oui, puis naturellement, est tourné sans acteur. Ecco, oui, c'est ça peut-être la définition de documentaire, si c'est possible. Franchement, des difficultés à faire des différences, mais sont toujours, il y a toujours cette capacité incroyable de Chantal Ackerman qui est dans tous ses films, vous voyez une image, vous dites, ah, ça c'est quelque chose de beau. Et là, un son un sens, elle avait un sens du cinéma, du rythme, de la cadence, du cadrage, de la couleur. Que franchement, à mon âge, je commence à dire, je ne le vois pas souvent. Je vois trop souvent des images qui ne disent rien. Et moi, je me souviens toujours, les premières fois que j'ai vu un photogramme de Folie Almeyer, je l'ai vu dans un contexte où on montrait des centaines de films, c'était un prix, enfin des montages, des petits films, et je m'étais endormi après 20 minutes parce qu'il n'y avait pas une seule image qui valait la peine. Et puis tout d'un coup, je me réveille, je vois une image magnifique, et je dis, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il fait là? Et puis je découvre plus tard, titre, Folie Almeyer. Donc, elle a toujours cette capacité d'établir une esthétique qui est absolument unique, qu'il soit documentaire ou pas.
Chantal parfois nommait les plans quand elle voulait parler d'un certain plan. Elle disait le plan vert ou le plan clair ou le plan blanc. Dans Dest, on avait même nommé un plan le sublime. D'ailleurs, on a eu du mal à le mettre. Parfois, quand c'est trop beau, c'est compliqué.
Enfin, il y a des plans qui sont vraiment magnifiques. Parfois, moi j'ai ça, je ne sais pas si tout le monde a ça, je peux aimer un film absolument pour un plan. Même pas pour ce que l'histoire va raconter, pas forcément pour ce que ça va nous dire ou toucher en nous, parfois simplement pour la beauté d'un plan.
Marianne Lambert.
Dans La Folie Almeyer, il y a ce plan aussi d'Aurora, de nouveau de dos sur le bateau à l'aube qui s'avance, qui est un plan complètement bleu, qui est un plan magnifique. De la même manière, il y a des plans dans Les Rendez-vous d'Anna qui sont sublimes. Le plan où Aurore Clément chante dans l'appartement avec Jean-Pierre Cassel, qu'elle a retrouvé et elle chante « Moi, j'essuie les verres au fond du café ». Ou bien le visage d'Aurore Clément de nouveau dans le taxi qui exprime une émotion. C'est-à-dire, elle a les larmes qui lui montent aux yeux. Ce sont des plans sublimes. Dest, qui pour moi est un long et lent poème filmé. Sud aussi est magnifique, d'une force et d'une construction
avec ce dernier plan sur cette route, ce travelling arrière à partir elle-même d'un véhicule où on voit la route légèrement en plongée, sur laquelle des cercles ont été dessinés, qui sont des cercles qui ont cerclé, si vous voulez, les restes d'un corps humain qui s'est disloqué, du corps de cet homme qui s'est fait lyncher, parce qu'il a été traîné sur une route dans un état du sud des États-Unis par des... Enfin, ce sont des plans qui vous restent en mémoire.
Du cœur, un peu de leur soleil et tant de couleurs.
Dans les années 80, il y a eu une sorte de cinéma élargi ou d'élargissement, si vous voulez, de l'effet cinéma dans les salles de musée, qui a fait d'elle une incontestable pionnière de cet élargissement. C'est quelqu'un qui a probablement participé d'une génération de cinéastes qui n'a pas été seulement une génération de cinéastes, proprement dit, mais une génération d'artistes. Je dirais qu'elle a été quelqu'un qui a fait le passage entre la notion d'auteur en cinéma à d'artiste en cinéma.
C'est ma première installation, enfin la fin de ma première installation. Pour arriver au 25e écran, il faut passer par le film projeté, puis traverser, se promener ou s'arrêter même parfois devant les 24 premiers écrans. Ils vont par trois et sont posés sur un piédestal. Le 25e, lui, est caché dans un petit coin par terre à part, tout seul dans le noir. Dans le noir, avant même qu'on ne pénètre dans la petite chambre où il gît, on entend déjà le col nidré jouer au violoncelle par Sonia, et puis aussi ma voix, d'abord en hébreu, puis en français. On entend... Lo yirelecha Elohim acherim alpanai. Lo ta selecha pesel vekol tmuna asher bashamayim mima'al v'asher ba'aretz mitachat v'asher bamayim mitachat la'aretz. Lo tishtachave lachem v'lo ta'avdem ki anochi adoshem eloheach elkana poket avon avot albanim al shilishim ועל רביעים לשניי. ועושה חסד לאלפים, לאוהביי ולשומרי מצוותיי. Tu ne te feras point d'idole, ni une image quelconque, de ce qui est en haut dans le ciel, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les adoreras point, car moi, Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui poursuit le crime des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération pour ceux qui m'offensent et qui tend ma bienveillance à la millième pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements.
Le 5 octobre 2015, Chantal Ackerman a mis fin à ses jours. Chantal Ackerman, intérieur, extérieur. Avec Clara Terton, Jacques Aumont, Marianne Lambert, Nicolas Mazzanti, Dominique Paini et Marilyn Watley. Les voix de Chantal Ackerman, Aurore Clément et Caroline Champetier. Remerciements à Sylvie Testu. Musique Sonia Wider-Atherton. Archives Ina Radio France et Marianne Lambert, I Don't Belong Anywhere. Enregistrement Laurent Macchietti et Andreas Jaffray. Mixage Olivier Dupré. Une émission de Christine Le Cerf, réalisée par Ghislaine David.
En fait, je me suis rendu compte qu'au fond, ma mère était le centre de mon œuvre. Parce que maintenant que ma mère n'est plus là, n'y a plus personne, quoi.
Pour ceux qui le peuvent, vous pouvez retrouver les œuvres de Chantal Akerman à la Ferme du Buisson jusqu'au 19 février. Cette émission est disponible en écoute ou podcast sur notre site. Rendez-vous la semaine prochaine pour Une vie, une œuvre, Agota Christophe.